Bonjour à tous les auditeurs de Radio MDM. Vous êtes dans l'émission Leur histoire est aussi notre histoire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de Saint-Pierre-du-Mont, mais de son histoire lointaine. Et également des pèlerinages au Moyen-Âge, notamment tout ce qui concerne les pèlerinages sur l'ensemble du Marsan. Et vous verrez qu'il y a un lien avec Saint-Pierre-du-Mont. Alors tout d'abord, que sait-on sur cette commune de Saint-Pierre-du-Mont qui a été, avant la Révolution, d'abord la paroisse de Saint-Pierre-du-Mont ? Il faut dire qu'on ne dispose pas vraiment d'études faites pour l'époque préhistorique, sinon que à plusieurs moments, on a ramassé des pierres polies qui ont été signalées, découvertes sur plusieurs endroits de la commune. Mais aucune étude d'ensemble, pas de fouilles archéologiques sur cette époque-là. En revanche, on sait que durant l'Antiquité, un établissement gallo-romain de type villa s'est installé sur la pente sud du plateau du Castéra. Alors, le Castéra, c'est ce grand plateau qui domine la Midouze, qui a un dénivelé extrêmement important. C'est une côte abrupte qui domine vraiment la vallée de la Midouze. On la voit très bien quand on prend la route de Dax vers Bayonne. Et ensuite, vers le sud, au contraire, il y a une pente douce. C'est donc un ensemble très très important qui a pu présenter un intérêt à différents moments de l'histoire, et on le verra tout à l'heure. Alors cette villa gallo-romaine, qu'on ne connaît pas très bien jusqu'à présent, elle a été quand même occupée jusqu'à l'époque mérovingienne. Alors d'abord, en 1978, en faisant des travaux dans son champ, le propriétaire d'un domaine de Saint-Pierre-du-Mont a remonté de nombreux fragments antiques lorsqu'il voulait planter une vigne, notamment au nord d'une ancienne chapelle qui est la chapelle Saint-Genès. Une archéologue qui est malheureusement décédée aujourd'hui, Brigitte Vattier, avait observé en Tullier donc un fragment qui était caractéristique d'une cruche du 3e-4e siècle. Il y avait également des fragments de tuiles romaines, ce qu'on appelle des tégulés. Et dans le champ voisin, on avait découvert de nombreuses traces de murs qui étaient rasés pratiquement au niveau du sol, voici quelques années, au nord de cette chapelle. Et donc, Didier Vigneault, que vous avez déjà entendu au cours des émissions précédentes, a fait plusieurs sondages, plusieurs années de suite, et a mis au jour notamment un édifice maçonné de type conduite d'eau, voici 2 ans. Je dois ajouter qu'un sarcophage de type mérovingien avait été découvert, voici une trentaine d'années, sur le site. Une église de Saint-Genès a d'ailleurs été fondée sur l'emplacement de cette villa. Et les recherches qui sont faites en archéologie médiévale depuis une cinquantaine d'années permettent vraiment d'avancer l'idée certaine que les édifices qui étaient dédiés à ce saint sont la plupart du temps d'origine mérovingienne. Pourquoi ? Eh bien d'abord, il faut savoir qui est Saint-Genès. Saint-Genès, c'est ce qu'on appelle un martyr, c'est-à-dire un chrétien qui a été exécuté pour sa foi avant le 5e siècle. Alors, c'est un martyr originaire de la ville d'Arles, au 4e siècle, où il était greffier au tribunal de cette ville. Alors, il n'était pas converti, mais il était sympathisant de la cause chrétienne. Et à un moment, il a eu entre les mains un édit de persécution de l'empereur Dioclétien contre les chrétiens. Il a refusé de le transcrire afin que cet édit soit affiché. Il a donc été arrêté et décapité en 308. Alors, la légende veut qu'il se soit d'abord enfui, réfugié sous un figuier, et qu'il ait été décapité sous ce figuier. C'est pourquoi, dans les représentations que l'on va trouver dans des édifices religieux, Saint-Genès est souvent accompagné du figuier. Donc Saint-Genès est le patron primitif de nombreuses paroisses. Alors là, on le trouve vraiment partout dans le sud de la France, c'est assez logique d'ailleurs, en Provence, à Narbonne, mais on le trouve aussi dans la vallée du Rhône, à Lyon, en Auvergne, à Bordeaux, même à Bordeaux. Et dans le diocèse de Bordeaux, on le rencontre aussi sous la forme locale Saint-Genis. Dans les Landes, en Marsan, nous avons d'ailleurs une forme qui est probablement dérivée de Saint-Genès, c'est Saint-Jean. Le village de Saint-Jean, au sud-est de Pugeot, limitrophe de Castandé, où différents objets d'origine antique ont déjà été signalés au cours du 19e siècle. Donc, vous voyez que Saint-Genès, finalement, ce n'est pas un titre anodin, c'est souvent l'indice d'une ancienneté, je dirais, à peu près certaine. Alors, que peut-on dire de cette petite chapelle ? Cette petite chapelle de Saint-Genès des Vallées, donc, a diffusé localement le christianisme. À cette époque, avant le 11e siècle, on ne parle pas encore de paroisse. Donc si j'utilise ce mot pour la période antérieure au 11e siècle, c'est simplement pour essayer de faire comprendre des réalités qui sont quand même très, très lointaines par rapport à notre époque. Donc à cette époque, il y a une église ou une chapelle, mais en général, on dit ecclésia pour ces petites églises. c'est à partir de cette communauté qui vivait probablement dans un secteur assez large autour de Saint-Genès qu'au cours du Xe siècle, l'église de Saint-Pierre-du-Mont est née sur le rebord du plateau qui domine la Midouze. On ne connaît pas les circonstances dans lesquelles cette église a été édifiée, mais la position géographique de ces deux églises montre qu'il y avait certainement des raisons économiques. En effet, Saint-Genès se trouve plutôt en arrière du Castéra sur la pente douce qui descend vers le sud, alors que Saint-Pierre-du-Mont domine vraiment le plateau et on peut penser à un lien effectivement avec la rivière, la navigation et les activités économiques. En tout cas, ces deux églises de Saint-Genès et de Saint-Pierre-du-Mont apparaissent très tôt dans la donation qui a été faite à l'abbaye de Saint-Sever par le duc Guillaume Sanche à la fin du Xe siècle. Alors ce duc d'Aquitaine a en effet joué un rôle très important dans la christianisation de l'ensemble de l'Aquitaine ou de la Gascogne et il a fondé en 987 l'abbaye de Saint-Sever. Il va donner à cette abbaye de très nombreux biens dans l'ensemble des Landes mais même au-delà et en particulier dans la liste des églises qui sont données à Saint-Sever, nous avons deux églises, Saint-Pierre de Roca et Saint-Genès des Vallées. Alors Saint-Pierre de Roca, c'est Saint-Pierre-du-Mont, et Saint-Genès des Vallées, eh bien c'est la petite église qui lui était antérieure et qui se trouve donc sur la pente douce au sud. La donation par le duc veut que ces deux églises deviennent des prieurés de l'abbaye de Saint-Sever. Mais dans la réalité, c'est l'église de Saint-Pierre qui va peu à peu s'imposer à partir de la fin du XIe siècle, comme centre paroissial important. Et nous le voyons très bien dans l'architecture de ces deux édifices, car Saint-Genès n'a sans doute jamais été un vrai prieuré, même si on l'appelle comme cela dans les textes, jusqu'en 1305. Aujourd'hui encore, cette petite chapelle, qui se trouve sur un domaine privé, donc est une chapelle très humble, très petite, avec un clocher à pignon, et sa modestie contraste avec vraiment la belle église de Saint-Pierre-du-Mont, qui a été édifiée à la fin du XIe siècle jusqu'à la fin du XIIe siècle. Et on voit donc cette église Saint-Pierre, c'est une église qui a été construite sur un plan bénédictin tout à fait caractéristique, c'est-à-dire bon, une nef et ensuite au niveau du chevet, un chevet en trèfle avec une abside principale et deux absidioles, ce qui donne cet aspect effectivement de trèfle. Des études ont été faites par des historiens de l'art et des archéologues sur ce chevet de Saint-Pierre-du-Mont et ils ont abouti à la conclusion que la construction de l'édifice a sans doute commencé à la fin du XIe siècle pour se poursuivre ensuite de façon progressive durant le XIIe siècle. Sans doute en fonction des moyens dont on disposait. Alors cette église a conservé ce chevet, car donc la nef a été notamment agrandie, donc on ne voit plus forcément les dispositions de l'époque romane. En revanche, le chevet, en forme de trèfle, a conservé notamment sa belle corniche. C'est une corniche en dessous du toit avec des petites consoles sur lesquelles sont sculptés des animaux fantastiques, des personnages un peu bizarres et des motifs géométriques. Là, l'abbaye de Saint-Sever a mis des moyens très importants qu'elle n'a pas mis à Saint-Genès et visiblement, elle a privilégié l'église de Saint-Pierre-du-Mont au détriment de celle de Saint-Genès. C'est de la paroisse de Saint-Pierre-du-Mont que va sortir Mont-de-Marsan au milieu du XIIe siècle. Mais de cela, bien, nous en reparlerons dans une émission ultérieure. Alors, quel intérêt d'édifier quand même des églises sur ce castéra durant le haut Moyen-Âge ? Il faut quand même revenir un petit peu à l'esprit de cette période pour comprendre les raisons pour lesquelles ce secteur du confluent et du castéra de Saint-Pierre sont importants. Et il s'agit des pèlerinages dont nous allons parler maintenant dans une seconde partie. En attendant, je vous propose O Fortuna. O Fortuna, c'est un des chants des Carmina Burana, mais ici, il a été réinterprété par Luc Arbogast, qui est un chanteur spécialiste de la musique médiévale, des musiques celtiques. Il a réinterprété de façon moderne l'ensemble de ce répertoire. O Fortuna fait partie des Carmina Burana, œuvre de Karl Orff, un compositeur allemand qu'il a créé en 1935-1936 à partir de 24 poèmes médiévaux dont le nom était Carmina Burana. Et O Fortuna, eh bien, c'est le poème initial du chœur qui va ouvrir l'ensemble des Carmina Burana. Thank you. Nous reprenons le cours de cette émission. Leur histoire est aussi notre histoire et dans le premier volet, je vous ai parlé notamment de l'église de Saint-Pierre-du-Mont et de celle de Saint-Genès-des-Vallées, petite chapelle située sur un domaine privé. Et je vous ai dit que ces deux églises constituaient une halte sur le chemin de Saint-Jacques au cours du Moyen-Âge. Et cela très tôt, probablement au cours du XIe siècle, début XIIe. Alors là, nous allons parler du développement du pèlerinage au Moyen-Âge. Ce développement est accompagné d'une autre caractéristique de la société médiévale, c'est celle du culte des reliques de saints à qui on va prêter des vertus surnaturelles, notamment des vertus de guérison. On pense au Moyen-Âge que ces personnages qui sont morts ont une force d'origine divine qui va s'exercer sur les vivants. Et c'est pourquoi on va leur prêter ces vertus de guérison. Les reliques les plus vénérées étaient dans l'Occident en général celles du Christ, ce qui fait qu'on ne compte plus les morceaux de couronne d'épines ou de clous de la croix qui sont conservés dans les grands sanctuaires. Mais les reliques de saints, même des saints moins connus, sont également très vénérées et font l'objet de pèlerinages. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les grands sanctuaires, on a modifié l'architecture romane et on a introduit derrière le chœur et derrière l'autel un petit cheminement permet de visiter les différentes chapelles où peuvent être conservées des reliques. C'est ce qu'on appelle le déambulatoire. Nous n'avons pas de déambulatoire ici dans les Landes. L'importance de ces reliques de saints dans la société médiévale explique qu'elles aient même été l'objet de trafic, parfois de vol, afin de s'assurer le succès du pèlerinage. Nous avons un exemple en Aquitaine, c'est celui des reliques de Sainte Foy de Conques, qui initialement se trouvaient à Agen, où était morte la sainte, et qui se sont retrouvées. Alors on ne sait pas exactement, la légende ou la rumeur générale, dit que ces reliques auraient été amenées à Conques par un moine. Il est également dit qu'on a voulu les mettre à l'abri des invasions des Normands, et du coup elles sont restées à Sainte Foy de Conques, et alors qu'elles auraient pu être à Agen. Voilà, bon. Alors, pour démêler le vrai du faux, c'est très difficile. Toujours est-il que, en effet, on peut avoir des trafics de reliques au cours du Moyen-Âge. Nous allons parler maintenant de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, qui est Saint-Jacques ? Eh bien, Saint-Jacques, d'abord, c'est un compagnon de Jésus, un frère de Jean l'Évangéliste. C'est donc un apôtre qui a vécu dans la première moitié du 1er siècle. Il a été décapité en Palestine vers 44 après Jésus-Christ. On lui a, de façon fausse, attribué l'évangélisation de l'Espagne, mais cela pour des raisons politiques au cours du Moyen-Âge. Dans l'Espagne du Nord, les royaumes de Léon et de Galice avaient été protégés des invasions. C'est donc de là qu'est partie la reconquête ou la reconquista qui a entraîné un certain nombre de grands seigneurs dans cette grande entreprise qui était la reconquista. Et donc pour justifier cette reconquista sur les musulmans qui occupaient une grande partie de la péninsule jusqu'au moins au XIIe siècle, eh bien, on a attribué à Saint-Jacques l'évangélisation de l'Espagne, mais en réalité, il n'en est absolument rien. D'après, là aussi, la légende, dont on n'est pas sûr évidemment du tout, puisque c'est une légende, d'après la légende, entre guillemets, le corps de Saint-Jacques aurait été déposé dans une embarcation. L'embarcation aurait franchi le détroit de Gibraltar et aurait dérivé jusqu'en Galice. Et là, un ermite aurait redécouvert son tombeau près de la future ville de Compostelle vers 813, c'est-à-dire à l'époque de Charlemagne, grâce à une pluie d'étoiles qui aurait guidé la découverte du supposé tombeau. Et dans le champ où il avait fait cette découverte, le roi de Léon et de Galice, Alphonse II, fait édifier une église dédiée à Saint-Jacques afin d'abriter ses reliques. Or, cette découverte des reliques se situe à un moment essentiel de l'histoire espagnole, c'est celle de la reconquista sur ces royaumes musulmans par les souverains chrétiens. Cette reconquista donnera lieu à de très nombreuses interventions et guerres jusqu'à pratiquement la fin du XVe siècle. Les débuts de ce pèlerinage coïncident avec le règne de Charlemagne, qui n'a jamais visité le tombeau, mais qui s'est associé aux souverains chrétiens dans cette entreprise de reconquête, puisque tout le monde connaît la célèbre chanson de Roland qui raconte l'épopée de l'armée de Charlemagne se rendant à Saragosse. Mais en réalité, devant Saragosse, il a essuyé un échec cuisant. Alors, furieux, pour se venger, au retour, il a rasé Pampelune. Et là, eh bien, Pampelune, c'était le territoire des Vascons. Et donc, quand il a traversé le col de Roncevaux dans les Pyrénées, son arrière-garde a été massacrée par les Vascons, notamment le célèbre preux Roland. Ce pèlerinage jacquaire, puisque c'est le nom que l'on donne au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, s'est développé essentiellement au cours du XIe siècle. On peut se rendre à Compostelle par différents itinéraires. Alors, évidemment, pour toutes les régions ou les pays de la façade atlantique, il est plus facile de venir par bateau, que ce soit par exemple depuis la Bretagne, l'Angleterre ou l'Irlande. Mais les voies de terre se sont développées dans toute l'Europe occidentale et on venait de loin. Ces itinéraires terrestres se sont créés peu à peu en s'appuyant sur les grands sanctuaires ou les petites commanderies et les petits hôpitaux qui avaient été créés par soit les grandes abbayes, soit les ordres monastiques dont nous reparlerons plus tard. Les Landes ont cette particularité d'être traversées par trois voies principales qui sont la voie de Tours, la plus à l'ouest, qui passe par Bordeaux puis par Dax, ensuite le col de Roncevaux. La seconde voie est la voie du Puy qui arrive à Aire et traverse le Tursan par Latrie et Miramont. Et enfin, la voie de Vézelay depuis Périgueux. Et c'est ce dernier itinéraire qui arrive près de Mont-de-Marsan par Mayas, Bouriot-de-Bergonce, Roquefort, Bostens, mais avec des variantes bien entendu. Et toutes ces routes se rejoignent à Pointe-la-Reine. Les deux églises de Saint-Pierre-du-Mont et de Saint-Genès-des-Vallées dont on a parlé donc tout à l'heure ont constitué une halte sur la voie de Vézelay pour les pèlerins. Et c'est certainement une des raisons qui explique la fondation de Mont-de-Marsan, mais pas la seule. Alors on va essayer ensemble de reconstituer les étapes de la voie entre le Bazadet et Mont-de-Marsan. Il faut savoir qu'environ tous les 10 ou 15 kilomètres existait une étape où les voyageurs et les pèlerins pouvaient s'arrêter. Ils pouvaient se faire soigner s'ils souffraient par exemple de blessures, notamment s'ils avaient les pieds en mauvais état car ils pouvaient franchir des centaines de kilomètres, parfois à pied, et ils pouvaient se reposer, recevoir un repas, éventuellement passer la nuit. Nous avons un texte du XIIIe siècle et il parle d'une voie publique ou via publica qui traversait la vicomté de Marsan et dont il donne le tracé depuis les environs de Cap-Cieux en passant par l'Incouac. Alors les pèlerins qui venaient donc du Bazadet traversaient la Guanère au Jinx. Le Jinx qui est un quartier aujourd'hui de Bayère, mais qui constituait une paroisse au Moyen-Âge avec une petite église. Ils arrivaient donc ainsi à Cachin. Ils passaient près de l'Incouac pour atteindre la commanderie de Bessaout au nord de la commune de l'Incouac. Cette commanderie avait été fondée donc près de la Via Publica et elle avait été très richement dotée par le roi d'Angleterre et divers seigneurs, et probablement soit au cours de la seconde moitié du XIIe, soit au tout début du XIIIe siècle. Bon, malheureusement, de cette très jolie petite commanderie, il ne reste aujourd'hui que des ruines, mais des ruines qui sont protégées. Ensuite, donc, les pèlerins repartaient vers l'hôpital de la Guanère, qui était situé sur un lieu encore aujourd'hui appelé La Salle, sur la commune de Cachin. Ils longeaient la Douce. Il s'arrêtait ensuite à l'hôpital de Séougues. Séougues se trouve à Lugbardès et ce petit hôpital appartenait à l'abbaye de la Sauve-Majeure. Enfin, quand il s'approchait de Mont-de-Marsan, sur la paroisse de Nonnerre, un petit hôpital, le petit hôpital de Sainte-Anne de Cap-Cornau, là où se trouve aujourd'hui d'ailleurs l'hôpital Sainte-Anne. Ce petit hôpital relevait des hospitaliers et c'était la dernière étape sur le chemin vers Mont-de-Marsan. Il y avait plusieurs possibilités. On pouvait passer, par exemple, par le confluent avec la porte Campette, car un peu plus tard, au cours peut-être de la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, un petit hôpital de la porte Campée existait à Mont-de-Marsan, un hôpital très pauvre, qui était sans doute d'origine privée, mais qui pouvait permettre au moins une halte. Il y avait une autre possibilité, car un prieuré de l'abbaye de la Sauve-Majeure avait été fondé, soit par un vicomte de Marsan, mais on n'en est pas sûr, car on n'a pas le texte, à l'emplacement de l'actuel parking de la Douze, en face du square des anciens combattants. Et oui, sous le parking de ce square, sachez que nous avons les vestiges de plusieurs sites archéologiques importants, le monastère des Clarisses, un hôpital Saint-Jacques et encore avant, eh bien, le prieuré de l'abbaye de la Sauve-Majeure. Alors ce prieuré de la Sauve-Majeure, nous savons qu'il existe, car il fait partie de la liste des établissements qui appartiennent à la grande abbaye. En revanche, nous n'avons aucun texte à son sujet, malheureusement, tout a été perdu. Tout ce que l'on sait, c'est que, entre la fin du XIIe ou le début du XIIIe siècle, il est remplacé par un hôpital Saint-Jacques. Après avoir quitté Mont-de-Marsan, eh bien, les pèlerins pouvaient se diriger là ensuite vers Saint-Sevé, où la petite chapelle Saint-Michel, toujours debout au quartier de Perret, les accueillait. Si l'on passait par le confluent, on pouvait directement rejoindre Saint-Pierre-du-Mont, qui était un prieuré bénédictin, et également Saint-Genès-des-Vallées, car la route traversait le ruisseau de Bourus au pied de la chapelle Saint-Genès. Cette route laissait à l'ouest la forêt de Mauco, qui avait une très mauvaise réputation. Puis ensuite, elle bifurquait vers un lieu dit l'Espitaou, près du Castelnau de Saint-Jean de Benquet, c'est-à-dire près du village de Benquet d'aujourd'hui. Au sud, cette route longeait le pied d'une enceinte occupée plusieurs fois depuis la proto-histoire, Castetcharla, et elle se dirigeait ensuite vers Saint-Sever, en passant par la petite chapelle Saint-Michel. J'en ai terminé pour cette émission. Il est temps de vous proposer une chanson qui est bien dans le thème de cette émission, Soukamine, par le groupe Las Mondinas, qui est un groupe de jeunes femmes. On va y retrouver notamment des chants de Bigorre et de Béarn. Donc, écoutons ensemble Soukamine.
Inside.